Radio Kapi.
Comme nouvelle d'actualité en la une ce soir, c'est bien entendu la rentrée scolaire pour ce lundi 5 septembre. Ainsi, les élèves des groupements Djomba, Bweza et une partie des Gisigari, réfugiés dans d'autres milieux dans la province du Nord Kivu, vont être réinsérés dans d'autres écoles. Principale raison, leur école reste encore fermée à cause de la présence du groupe terroriste M23. Décision des autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 1, nouvelle que nous vous proposons en ouverture de cette édition. Nous parlons aussi des conditions carcérales après la mort d'un détenu dans la prison centrale de Kabaré. L'ONG des défenses des droits humains Partenariat pour la protection intégrée PPI lance un appel aux autorités afin de la prise en charge efficiente des détenus dans les différentes prisons du Sud Kivu, notamment Calais et de Kamituga. La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international, ouvrage publié samedi par le professeur Chibangu Kalala. Nous le recevons en fin de cette édition comme invité, mesdames et messieurs. Continuez à nous faire confiance pour votre information fiable sur Radio Okapi. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Rentrée scolaire 2023. Ce lundi 5 septembre, au Nord Kivu, plus d'un millier d'élèves déplacés d'au moins trois groupements du territoire des Rutshuru devraient être insérés dans d'autres écoles. Une dizaine d'écoles d'origine de ces élèves restent encore fermées dans ces entités occupées depuis plusieurs mois par les rebelles du M23. Ce sont notamment les groupements des Djomba, Bweza et une partie de Gisigari. Les détails avec vous, Noël Aluzitu.
Les autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 1 en ont ainsi décidé à l'issue d'une rencontre tenue jeudi à Goma. Selon le directeur provincial intérimaire de l'EPST Nord Kivu 1, différents sites et écoles hautes sont déjà choisis pour accueillir ces élèves et leurs enseignants en déplacement sans condition.
En cas de pléthore dans les écoles et autres, nous avons pris l'initiative de prendre tous ces enseignants payés en déplacement aussi. Nous devons aussi enseigner leurs élèves. Donc, on va organiser double vacation pour ces élèves-là. L'inscription, on n'exige pas le bulletin. Si l'enfant vous dit qu'il était en quatrième, par exemple à l'école primaire, prenez-le en quatrième, comme il n'a pas terminé peut-être l'année. Donc, les écoles et autres doivent recevoir ces enfants sans condition.
Une commission mixte autorité scolaire et ONG partenaire est aussi mise en place pour la matérialisation de ces dispositions, dit M. Dunia. Toutefois, les autorités coutumières et la société civile locale de Rutshuru appellent à plus d'actions pour d'autres besoins de survie de ces élèves déplacés et leurs familles.
Province du Maniema présent, le syndicat national des écoles conventionnées catholiques Sinekat Maniema invite ses enseignants à la reprise effective des cours dès ce lundi 5 septembre. Son secrétaire provincial Cléophas Markangila fait savoir qu'aucun enseignant du réseau catholique n'a le droit de s'absenter ce lundi 5 septembre. On l'écoute dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
À l'unanimité, et tous les enseignants du réseau catholique viennent de comprendre la matière et ils nous promettent que dès le lundi 5 septembre, ils seront tous à l'école. Pour cette occasion, on pourrait encore demander aux parents de préparer aussi les enfants pour répondre massivement à la rentrée scolaire qui pourrait intervenir le 5 septembre. Moi, je suis une structure indépendante. Je dépends de ma base. J'y étais en Bola Lodge. Suis doté des instruments de base. Le Sénécat demande avec dernière énergie toute implication aux manœuvres dilatoires de nos reprises de cours telles que tenues par l'imposteur de certaines troupes. Par ailleurs, le Sénécat informe l'opinion publique que ceci ne vient pas du réseau catholique et ne peut en aucun cas engager son label. C'est-à-dire, le Sénécat les invite désormais à l'attention exclusive de son communiqué signé le 26 août dernier pour une rentrée scolaire apaisée le lundi 5 septembre 2022 dans toutes les écoles catholiques de la province du Maniema.
Nous parlons encore des préparatifs de la rentrée scolaire dans le Maniema. Les parents, les enfants et les écoles s'activent pour répondre présents à ce rendez-vous. Florence Kizalunga a sillonné la ville de Kindu et nous propose ce reportage.
Ce week-end, le marché central de Kindu déborde d'acheteurs. Parents, élèves et autres personnes se hâtent pour se procurer les fournitures scolaires. À la fin des achats, certains rentrent avec seulement une partie des fournitures car ils crient tous à la hausse de prix. Ces parents témoignent.
Vraiment, le marché est bizarre. J'ai acheté seulement une petite quantité pour commencer. Ici, il n'y a pas moyen. Les prix ont galopé vraiment.
Le vendeur est aussi parle de vente timide. Du côté des écoles, les acteurs éducatifs ne jurent que par la rentrée effective des classes demain. Ils affirment que tout est fin prêt pour accueillir les enfants ce lundi 5 septembre. Les travaux de nettoyage et d'entretien des salles de classe se font déjà. C'est le cas au complexe scolaire Fora où la directrice sœur Antoinette Kasanga demande aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école ce lundi.
Nous préparons pour accueillir les enfants et là déjà il y a le nettoyage qui se fait. La distribution des documents c'est déjà. Nous sommes déjà prêts pour la rentrée pour ce lundi.
Signalons que le vendredi dernier, le gouverneur intérimaire lui aussi a réuni tous les acteurs éducatifs et les partenaires payeurs des enseignants pour se rassurer de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la province du Maniema. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Voyons comment cela se passe à Matadi au Congo central où la fondation Mama Denise Mwadi a procédé hier à la distribution des fournitures scolaires à ses membres. Le fonds qui a servi à l'achat de ces kits a été collecté auprès des personnes de bonne volonté grâce à la stratégie dénommée « un dollar pour sauver une vie ». Selon Denise Mwadi, présidente de la fondation, l'intérêt de ce geste à la veille de la rentrée scolaire est de permettre aux parents d'envoyer les enfants à l'école à l'heure de la gratuité de l'enseignement. Reportage de Nana Plurich Mambou.
C'est moyennant leur cotisation mensuelle de 1 dollar dans le cadre de la campagne 1 dollar pour sauver une vie que près de 200 membres de la fondation Mama Denise Mwadi ont reçu chacun des fournitures scolaires dont des sacs à dos, des cahiers et des stylos. Pour l'autonomie financière des responsables des différentes cellules de cette fondation, Denise Mwadi, sa présidente, a mis à leur disposition des ballots de friperie et une enveloppe contenant une somme d'argent. Dans le cadre de ses œuvres philanthropiques, Denise Mwadi a doté aussi 7 personnes vivant avec handicap des béquilles et des fauteuils roulants. Denise Mwadi, présidente de cette fondation, justifie son geste.
Le geste a été fait à la veille de la rentrée scolaire pour soutenir les parents et aussi accompagner les chefs de l'État pour donner l'accès à tout le monde d'aller à l'école, surtout à nos jeunes filles.
Cette dotation faite à la veille de la réouverture des écoles réjouit les membres de cette fondation. Témoignage.
Nos enfants vont étudier parce que nous manquons vraiment des moyens pour acheter des fournitures scolaires pour nos enfants. Aujourd'hui, là, la fondation Mama Denise a pensé à nous, que Dieu lui accorde encore de bonnes choses.
Hormis la distribution des objets classiques, la fondation Mama Denise Mwadi réhabilite aussi les centres de santé du patronage situé dans la commune de Mvouzi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, projet de développement de 145 territoires, le bureau central de coordination BESECO, l'une des trois agences chargées d'accompagner la mise en œuvre de ce projet, a remis ce samedi 3 septembre un chèque de 91 millions de dollars aux agences d'exécution locales de ce programme. Jean-Mabi Moulumba, coordonnateur du BESECO, a fait savoir qu'avec ce financement, ces agences devront se déployer dans les territoires concernés pour démarrer les travaux. Jean-Mabi Moulumba le dit à Paul Matendo.
Avant toute chose, je voudrais d'abord préciser que le BESECO avait adopté comme stratégie la promotion de la transparence, de la redevabilité et de la performance. Par transparence, en fait, nous avons recruté ces ONG sur base compétitive. Le BESECO avait publié un avis à manifestation d'intérêt au terme des évaluations des offres qui avaient été reçues dans le cadre de cet avis à manifestation d'intérêt. Nous avons pu recruter 41 agences locales d'exécution qui a été jugée la plus performante. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes venus leur remettre le chèque. Redevabilité, ça signifie en fait que les ressources que BESECO utilise pour payer les ALE sont les ressources du trésor public. Il est tout à fait normal qu'on montre que ces ressources ont été remises entre les mains des ALE pour pouvoir construire les infrastructures qui leur ont été attribuées. Performance, vous allez le voir vous-même qu'en un temps record, BESECO a pu engager à peu près 91 millions de dollars américains, ce qui signifie que d'ici 6 mois, c'est 91 millions de dollars vont être dépensés. Ça témoigne en fait qu'aujourd'hui, BESECO a une forte capacité d'absorption des ressources qui sont mises à sa disposition.
Actualité dans nos prisons, sur Kivu, l'ONG de défense des droits humains Partenariat pour la protection intégrée, PPI, déplore la mort ce vendredi 2 septembre d'un détenu malade de la prison centrale de Kabaré. Tout en saluant la récente réhabilitation de cette maison carcérale par la MONUSCO, l'ONG PPI demande aux autorités tant nationales que provinciales de tout faire pour améliorer les conditions de vie carcérale sur toute l'étendue de la province. C'est notamment dans les prisons de Calais et de Kamituga où des cas de décès chez les prisonniers ont été également rapportés ces derniers mois. Pascal Mupenda, chargé des programmes au sein de PPI, explique au micro de Cynthia Bachizi.
L'un des médecins dans cette maison carcérale a indiqué à PPI que ses détenus étaient malades et il a été transféré à l'hôpital de Mukongo, là, toujours dans les territoires des Kabarés. Malheureusement, il est mort. Nous devons le dire clairement, nous constatons avec amertume que dans cette maison carcérale, encore une fois, il n'y a pas de médicaments présentement, malgré que en ce jour, depuis sa réhabilitation par la MONUSCO, on y a affecté au moins 4 médecins, malgré leur savoir qu'ils ont. Ils sont en difficulté parce qu'il n'y a pas de médicaments dans cette maison carcérale. Nous pensons que l'autorité provinciale, tout comme nationale, devrait tout mettre en œuvre pour nous éviter cette fois-ci les pires dans la prison des Kalbarets, qui commence déjà à enregistrer des morts, tout comme aussi dans d'autres prisons à Kamituga. Aujourd'hui, nous sommes déjà à au moins 7 morts depuis le début de l'année 2022. À Calais aussi, on est déjà, je crois, au-delà des 4 morts. Tout ça, c'est toujours par manque de nourriture et médicaments.
Pour sa part, le Bureau conjoint des Nations Unies a documenté durant le mois de juillet 2023 311 violations et atteintes aux droits de l'homme sur tout le territoire de la République démocratique du Congo. Ce chiffre représente une réduction de 25% par rapport au mois de juin 2022 où le BCNUDH avait enregistré 475 violations. Cette réduction reflète la diminution à la fois des violations attribuables principalement aux agents de l'État. Sur le plan judiciaire, le BCNUDH a continué à rapporter son soutien aux autorités congolaises dans le cadre de la lutte contre l'impunité des violations et des atteintes aux droits de l'homme. Des détails avec vous, Noëlla Luzitu.
Dans les territoires affectés par les conflits, 314 violations et atteintes aux droits de l'homme commises par toutes les parties ont été documentées en juillet 2022 avec un total de 701 victimes parmi lesquelles au moins 200 civils dont 140 hommes, 27 femmes et 33 enfants victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires. Les groupes armés sont les principaux responsables avec 75% des atteintes documentées dans ces territoires affectés par les conflits, indique le rapport. Le même document renseigne que les atteintes par les différents groupes Mai Mai et le combattant de la CODECO ont cependant connu une augmentation significative alors que les atteintes par les membres des ADF ont diminué au Nord Kivu mais considérablement augmenté en Ituri par rapport au mois précédent. Les cas de violences sexuelles liées au conflit sur des victimes adultes documentées en juillet 2022 ont augmenté par rapport au mois précédent. Le BCNDH a enregistré au moins 58 victimes adultes au cours du mois en revue contre 27 au mois de mai 2022. Cette augmentation est principalement liée au nombre de cas commis en avril et en mai 2022 et documentée au cours d'investigations récentes. En l'instar du mois précédent, les groupes armés sont responsables de la majorité des cas de violences sexuelles commises sur les civils.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO a appelé la jeunesse étudiantine à plus de responsabilités et à la culture de dialogue pacifique et respectueux et à bannir la violence comme forme de toute revendication. Bintou Keïta a lancé ce message samedi dernier à Kinshasa devant les étudiants des différentes universités de la capitale. C'était au cours d'une rencontre d'échange organisée par le club des élites universitaires de Kinshasa. Cette activité question-réponse avait pour objectif d'échanger sur le rôle de la MONUSCO, notamment dans la partie est du pays où il y a eu des manifestations populaires pour exiger le départ de la mission onusienne. Par ailleurs, dans un climat amical, Bintou Keïta a ouvertement répondu aux questions des étudiants tout en expliquant le travail de la MONUSCO. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
En tant que MONUSCO, nous nous focalisons sur les provinces où il y a encore les conflits, les groupes armés locaux, les groupes armés étrangers. Et il y a tout un travail qui se fait pour réduire la force des groupes armés locaux, pas seulement à travers l'utilisation de la partie militaire de la mission, mais aussi de la partie, ce qu'on appelle les affaires civiles, qui engage les communautés pour que les communautés arrivent à travailler, à dialoguer ensemble pour réduire les violences intracommunautaires et les violences intercommunautaires. La lutte contre l'impunité. Nous avons toute une section qui appuie le ministère de la Justice, pas seulement la justice civile, mais aussi la justice militaire. Et notamment, depuis des années, là où il y a des progrès notables, c'est dans la justice militaire. Parce qu'on a une responsabilité de faire le monitoring et le reporting des violations de droits de l'homme partout, que ce soit pour les forces de sécurité, mais aussi dans les groupes armés.
Actualité internationale.
Pour son premier déplacement officiel à l'étranger depuis son accession au pouvoir, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a rencontré samedi son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Les deux présidents de transition ont passé en revue les sujets d'intérêt commun pour leur pays, y compris les problématiques du Sahel, pour renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs. Aujourd'hui, nous avons effectué une visite d'amitié au Mali dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina Faso et le Mali. Et c'était aussi un moment opportun pour nous puisque nous sommes dans des périodes de transition, a expliqué le président du Faso. Fin août, le Burkina Faso et le Niger avaient invité Bamako à revenir dans le G5 et de sa force conjointe qu'il a quitté mi-mai. Le colonel Damiba devrait poursuivre sa tournée à l'étranger en Côte d'Ivoire où il s'entretiendra avec le président ivoirien Alassane Ouattara selon une source à la présidence burkinabé. 3 des 49 soldats arrêtés le 10 juillet dernier et écroués mi-août au Mali ont été libérés samedi à titre humanitaire. Il s'agit essentiellement des femmes du contingent ivoirien que Bamako accuse de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le président togolais qui assure la médiation a salué ces décisions des autorités maliennes. Par ailleurs, les autorités ivoiriennes ont promis de s'engager à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali.
L'invité.
Notre invité est le professeur Tshibangu Kalala, enseignant à la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Il s'exprime sur l'ouvrage qu'il vient de publier intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Le professeur Tshibangu Kalala s'entretient avec Alain Irung.
Professeur Tshibangu Kalala, bonjour.
Bonjour Alain Irung.
Vous venez de publier un ouvrage intitulé « La République démocratique du Congo et ses 11 frontières internationales, géopolitique et droit international ». Pourquoi ce titre ?
Je voulais résoudre un problème, ou si vous voulez, combler une grande lacune. Nous avons un vaste territoire sur lequel le soleil ne se couche pas. Et nous, Congolais, nous bombons la poitrine tous les jours en disant que nous avons un territoire très vaste, très riche, à juste titre, et convoité par des forces étrangères. Mais nous ne savons pas comment ce territoire est né, qui a créé ce territoire, dans quelles circonstances, quand, comment, et quels sont les combats qu'il a menés pour tracer ce territoire, le délimiter, quels sont les soutiens qu'il a pu avoir. Nous n'avons pas beaucoup de détails là-dessus. Nous ressemblons un peu à quelqu'un qui est propriétaire d'une grande parcelle. Il dit que c'est sa parcelle, mais il n'a pas les titres de propriété prévus par la loi sur cette parcelle. Et puis, sa parcelle n'est pas clôturée. Et donc, n'importe quel voisin ou quelqu'un de mauvaise foi peut venir le chasser, parce qu'il n'a rien. Et c'est ça l'impression que nous avions. J'ai voulu, en lisant ce livre, remettre au peuple congolais ces titres de propriété qui sont internationaux sur notre territoire. Et montrer au peuple congolais que notre territoire n'a pas été clôturé complètement. Il y a des parties où on a mis la clôture, ce qu'on appelle les bornes, mais il y a des parties où on n'a pas mis des bornes. Et même là où il y a des bornes, la clôture, ce sont des vieilles bornes, des vieux murs, construits au 19e siècle, ça fait plus de 100 siècles, qui ont disparu, qui ont détruit, etc. Et donc, il y a des menaces. Et ce qu'il faut faire, premièrement, je vous donne vos titres de propriété qui sont cachés dans des archives des pays européens. Ici, sur place, nous n'avons pas grand-chose. Mais pour arriver à ces titres de propriété internationaux, qui sont des traités et accords internationaux, non. Qu'est-ce qu'il fallait faire à Lyon ? Il faut savoir comment nous sommes arrivés à avoir ce type de propriété. Donc il fallait faire un peu la géographie, faire un peu de l'histoire et faire de la géopolitique. La géopolitique qui signifie des rivalités, la science de l'État sur un territoire bien déterminé.
Dans la géographie de la RDC, on nous a appris qu'il y a 9 frontières. Comment vous en êtes arrivé à 11?
Il y a 9 frontières avec les pays voisins, avec l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, Soudan du Sud aujourd'hui, République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. Ça fait 9. Mais il y a 2 autres frontières dont je parle dans le livre et qui fait que nous arrivons à 11. La 10e frontière, c'est la frontière de l'air dans l'espace. Puisque nous n'habitons pas dans l'espace, nous n'avons pas conscience que nous avons des frontières dans l'air. Mais je peux vous donner des cas récents, qui est très connu ici dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez beaucoup de pays d'Europe ont fermé leurs frontières de leur territoire aérien contre les avions de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais même nous aussi, notre gouvernement, très récemment, le gouvernement congolais a décidé de fermer nos frontières aériennes, de fermer notre territoire aérien aux avions de la compagnie d'aviation Rwandair. Donc ça signifie que nous avons des frontières dans l'air et qu'il y a des organismes de l'État qui surveillent ces frontières. Aucun étranger, aucun avion ne peut pas pénétrer dans notre territoire aérien sans notre autorisation.
Ça, c'est la 10e frontière.
Ça, c'est la 10e
et
frontière.
La 11e.
La 11e, c'est ce que j'appelle le territoire bleu de la RDC. Nous avons un territoire bleu qui est dans l'océan Atlantique. et nous avons tracé les frontières de ces territoires bleus, ça c'est mon terme à moi, territoire bleu, en 2009. C'est une frontière récente. Le Parlement congolais a voté une loi le 7 mai 2009, qui a été promulguée par l'ancien président Jean Kabila. Ce territoire, c'est dans l'océan Atlantique, qui mesure à peu près 670 kilomètres.
Dans le contexte d'aujourd'hui, où la RDC est agressée par le M23 sous couvert du Rwanda, en rapport avec votre ouvrage, quels sont les enjeux autour des frontières?
Ce livre a l'avantage de remettre au peuple congolais tous les titres de propriété internationale. Comme disent les Kinois, Bukuyalupango. Donc les Congolais aujourd'hui, nous avons nos titres de propriété légaux et qui sont internationaux, opposables à tous. Voyez-vous, personne ne peut venir nous déranger aujourd'hui. S'il bouge, on dit ouais, « Ok, vous avez des prétentions sur telle ou telle partie de notre territoire, voici nos titres de propriété, montrez-nous les vôtres. » Alors si on n'était pas d'accord, on va devant la Cour internationale de justice qui va nous départager. Et ça tombe à point nommé justement avec ce que vous avez souligné, les Congolais qui parlent tout le temps de la balkanisation, qui craignent qu'il y a des tentatives de puissances étrangères qui cherchent à nous arracher tel ou tel morceau de notre territoire en disant bon, ils ont déjà un grand territoire, mais on va prendre une partie. Mais là, ça ne peut pas se faire. Comme le président de la République a dit dernièrement, en matière d'intégrité de notre territoire, il n'y a ni transaction ni compromission.
Professeur Tshibangu Kalala, merci.
Voilà qui met fin à cette édition de journal préparée par Noëlla Luzitu. Billy Landry Beto a assuré la prise des soins et la mise en onde et Billy Yvan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.